Voilà, bien, je pense que nous sommes à l'heure donc pour cette table ronde consacrée au monde univers de l'imaginaire. Je dois vous signaler d'abord l'absence d'Elisabeth Von Arbourg qui nous venait évidemment du Québec et qui n'a pas pu se déplacer. Je pense parce qu'elle a fait beaucoup de choses dans le congrès boréal juste avant. Voilà, donc nous nous retrouverons avec Vincent Ferré. Je vous cite donc nos intervenants dans l'ordre d'apparition, Régis Gaudin et Christian Léourier, que je vais vous présenter donc tout de suite. Voilà, alors Vincent Ferré est universitaire, connu en particulier pour ses travaux sur l'œuvre donc évidemment de Tolkien. Il est agrégé de lettres modernes, ancien lecteur donc à Cambridge, et il est professeur de littérature générale et comparée à l'UPEC depuis 2012. Il est spécialiste du roman de la première moitié du XXe siècle, mais il travaille également sur la littérature du Moyen-Âge et sa réception au XXe siècle, que l'on appelle le médiévalisme.
Merci,
ça va, Vincent ? C'est voilà. Bien, il est également connu, évidemment, du grand public pour ses traductions. Et il a aussi collaboré au doublage, ça c'est important, je trouve, des dialogues du premier film de la trilogie cinématographique de Peter Jackson, évidemment. Il, entre autres, dans ses publications, a cité le numéro d'avril 2016 de la revue internationale Europe, en co-direction avec Roger Bozzetto, sur Tolkien et Lovecraft. Voilà, Régis, oh, c'est toujours un peu long, hein, on a des universitaires, hein, bon, bref, Régis, donc Régis Gaudin est né en 1967 à Amiens, ville d'ailleurs où il habite toujours. Alors il débute sa carrière d'enseignement, un très beau parcours d'ailleurs je trouve, comme instituteur, et en 2006 il réussit l'agrégation d'art plastique et il va rejoindre l'université Paris 13. En 2011 il intègre l'UFM d'Amiens. Et tout en continuant d'écrire, évidemment, et je pense en poursuivant cette écriture, donc de son heptalogie, le sang des sept rois, que vous avez, je pense, voilà, sur les tables ici. Voilà. Peut-être qu'il nous en parlera éventuellement, j'imagine, après. Voilà. Et Christian Léourier, donc Christian, qui est né en 1948 à Paris, un écrivain français de science-fiction et de récits historiques pour adultes et pour la jeunesse. Son premier roman de SF, Les Montagnes du Soleil, a été publié en 1972 dans la collection Ailleurs et Demain chez Robert Laffont, prestigieuse collection. Et il est également l'auteur de nombreuses nouvelles de science-fiction publiées dans les revues Fiction, Horizon du Fantastique, Bifrost et dans diverses anthologies. Alors, aujourd'hui, enfin, je crois récemment, les éditions Ad Astra rééditent les trois premiers romans de son cycle, donc de Lammeur, qui est la totalité, voilà, qui viennent d'être réédités, alors sous le titre Les Contacteurs, c'est ça ? Non, ça c'est les trois premiers.
Les trois premiers, c'est voilà. Les Contacteurs, mais il y a ensuite deux autres tomes et un tome d'inédit.
D'accord.
Voilà. Il y en a quatre.
Ok, merci. Et donc, dernière parution en 2016, le space opéra donc Citrine Jetta aux éditions Critique et Dur silence de la neige, un roman de littérature générale aux moutons électriques. Voilà pour la présentation. Alors, très rapidement, par rapport à la thématique donc de notre table ronde, les mondes univers de l'imaginaire, eh bien moi je pour évidemment vous aider un petit peu et puis diriger nos intervenants. Je pense que la littérature est évidemment capable de créer ou de recréer finalement des mondes fictionnels, qu'ils soient vraisemblables, par exemple, comme dans la littérature générale. Mais les littératures de l'imaginaire vont certainement encore plus loin. Et que ce soit en fantasy ou en science-fiction, ce sera un petit peu la caractéristique de cette table ronde aujourd'hui, de mêler finalement les deux genres. Eh bien, les auteurs vont créer des mondes non vraisemblables, des espaces, des époques, des personnages, des langues, des sociétés qui n'existent pas. Et à tel point que l'on peut parler de livres univers ou d'œuvres mondes, comme c'est le cas par exemple, je prends deux exemples très très connus, pour Dune de Frank Herbert en science-fiction ou évidemment du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Voilà, donc la première question que j'aimerais poser à nos intervenants, c'est quelle serait pour vous la définition d'un monde imaginaire de fantasy ou de science-fiction ? Alors, est-ce que cette notion de livre-univers ou d'œuvre-monde vous semble-t-elle pertinente ? Je ne sais pas. Régis ?
Oui, ce sont des définitions qui sont intéressantes, œuvre-monde, parce que contrairement, je dirais, à la littérature qui s'appuie sur des espaces existants qu'on peut connaître, on part d'une page blanche. Et compte tenu qu'on part d'une page blanche, hein, à un moment donné, on va être amené à composer en fonction des nécessités du récit, une cartographie, d'espace, hein, qui va comprendre des reliefs, un réseau hydrologique, on va pouvoir à un moment donné, quand on élabore finalement, qu'on le fasse a priori ou qu'on le fasse au fur et à mesure, on va s'attacher pour que on puisse croire à l'histoire, à fabriquer donc une structure cohérente, hein, qu'elle soit géographique, sociale, politique, et on se pose des problèmes de déplacement, de logistique. En fonction de l'échelle qu'on a choisie pour le monde en question. Et effectivement, je pense que c'est une situation dans laquelle on est un peu des démiurges. On est amené, contrairement à quand on s'inscrit sur un espace connu, à pouvoir en choisir les règles du jeu. Alors, les règles du jeu, parfois, elles sont très rationnelles. Hein, parfois, elles ne sont pas rationnelles du tout. Et donc, dans ces univers-là, ça contraint finalement une certaine forme d'adhésion de la part de la personne qui va lire le livre. Par exemple, tu cites Dune. Dune, c'est du sable. S'il n'y a pas de mer, d'où vient le sable ? C'est un problème, mais ce n'est pas un problème pour le lecteur, ce serait un problème pour quelqu'un qui voudrait finalement l'analyser en tant qu'espace rationnel, bien sûr. Par contre, quand on va le lire, ce n'est pas une question qu'on va se poser parce qu'on va accepter la règle du jeu qui est posée par l'auteur. Dans le sang des 7-3, il y a des choses qui sont rationnelles sur le plan de l'espace, il y en a qui sont complètement irrationnelles. C'est tout petit, mais on va passer finalement de l'extrême chaleur du désert à l'extrême froid polaire dans la partie nord, donc dans un univers qui est trop petit pour qu'on ait telle variation climatique. Rien ne les justifie. C'est un monde de fantaisie. Le tout, c'est de finalement tomber d'accord avec le lecteur sur le fait que dans ce monde univers, qui est un monde qui n'est pas toujours rationnel, eh bien, on a une règle du jeu qui va être établie, donc clairement établie, et dans laquelle, une fois qu'elle a été établie, si on veut que ce soit cohérent, il ne faut pas trahir les postulats qu'on a mis en place au début. C'est un consensus. Voilà.
Christian ?
En fait, la question, première question à se poser quand on veut décrire un monde. Et moi, je fais de la science-fiction, c'est-à-dire que j'essaye de décrire des planètes avec des climats, des topologies différentes. La première question à se poser, c'est est-ce qu'on se situe dans notre univers, c'est-à-dire dans ce qu'on connaît des lois physiques de notre univers, ou est-ce qu'on crée un univers complètement différent avec des lois différentes ? Une fois qu'on a réglé ce problème-là, et moi, je travaille généralement dans un monde où les lois physiques sont les mêmes que les nôtres, il faut effectivement faire en sorte qu'on soit dans une complète cohérence, une complète rationalité. Mais surtout, à quoi ça sert de créer un monde ? Ça sert surtout à le peupler. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir quelle est l'interaction que le milieu que je crée avec les personnages que je fais évoluer. Alors, quelquefois, ça fonctionne dans ce sens-là. D'autres fois, ça fonctionne dans l'autre sens. C'est-à-dire, j'ai un personnage, je veux expliquer son caractère, sa culture, etc. Quelle est l'influence du milieu sur ce personnage ? Donc, c'est le personnage qui va m'amener à créer un milieu. Qui va être, si je veux un personnage, je ne sais pas, particulièrement âpre, rigide, etc., il va plutôt évoluer dans un univers qui va être un univers où la nature est très rude, désertique, ou au contraire, une jungle, voilà. S'il est dans une plaine fertile, je pense que son caractère sera plus doux. Donc, on crée en même temps l'univers et les personnages. C'est une sorte d'interaction. Hein. Il ne faut pas que l'univers, la planète monde, soit un simple décor.
Merci. Vincent, oui, peut-être revenir sur cette notion de livre-univers ou d'œuvre-monde.
Et de naissance, puisque donc moi, j'ai la particularité de ne pas être auteur ici, mais de parler d'un auteur, en l'occurrence Tolkien. Il y a deux origines à son œuvre, d'une part les noms propres et d'autre part les langues. En fait, Tolkien, avant d'être un romancier, a d'abord été poète. Et on l'ignore souvent, mais il a envoyé un recueil de poésie en 1916 à un éditeur qui l'a refusé. Si le recueil avait été accepté, peut-être qu'on n'aurait jamais eu Le Seigneur des Anneaux, parce que Tolkien serait resté dans la poésie. Et ses premiers recueils, ou ses premiers textes poétiques qui se rapportent à la Terre du Milieu sont vraiment, justement, des poèmes brefs autour de noms propres, comme par exemple celui des Arendil, qui provient de textes anglo-saxons en vieil anglais. Donc la réflexion et la rêverie sur les noms propres, c'est vraiment la naissance de l'œuvre de Tolkien. Pour ceux qui aiment les langues elfiques, vous le savez, il y a quelque chose d'assez amusant qui s'appelle les étymologies. C'est un petit volume publié en français qui recense des mots elfiques par racine, un peu comme les mots latins. Moi, j'avais été très ému en découvrant dans ce recueil appelé Étymologie, j'avais vu apparaître le nom Atalante, qui signifie donc ce qui renvoie à la chute, etc. Et c'est le nom que Tolkien a donné à sa version du mythe de l'Atlantide. Et chez lui, visiblement, l'invention du nom propre a précédé l'invention de l'histoire. Donc ça, c'est pour le nom propre. D'autre part, l'autre origine des mondes de Tolkien, ce sont les langues. Donc vous le savez, il était philologue, il travaillait sur les textes médiévaux en particulier. Il avait vraiment une connaissance des langues médiévales et des langues modernes absolument prodigieuses. Et comme un pianiste composant des mélodies au piano, lui inventait des langues suivant des sonorités qui lui plaisaient. Et on considère qu'au-delà des langues elfiques qui sont les plus connues, de la dizaine de langues relativement développées, il en a imaginé ou inventé ou nommé une cinquantaine. Et il le dit assez clairement dans un de ses prologues, « Le Seigneur des Anneaux se passe dans un univers qui a été créé pour servir de décor à des dialogues entre des personnes parlant elfique. » Donc l'origine, un cadre à des dialogues. Donc l'origine du monde ici, elle est vraiment liée au langage et assumée comme telle chez quelqu'un qui était un philologue de profession.
Oui, c'est très intéressant. Justement, alors, moi, la question que je voulais vous poser après, c'est, on a défini en quelque sorte les grands principes de création. Et après, je crois que ce qui est intéressant pour le public, c'est de savoir finalement, on rentre un petit peu dans l'atelier de l'écrivain. Et comment est-ce qu'on s'y prend finalement pour créer un monde ? Par exemple, Christian, tu as parlé de personnages. Donc, comment tu vas faire ? Est-ce que tu vas faire des listes pour tes noms de personnages ? Comment ça se passe concrètement pour écrire des cycles qui peuvent faire plusieurs tomes ? Donc il faut quand même de la matière. Donc, comment vous développez cette matière ?
Alors, en fait, moi, je ne fais pas de liste, mais effectivement, ce qu'il faut avant tout, c'est que ces mondes soient cohérents. Donc, par exemple, les noms propres sont tous fondés sur des racines qui ont la même origine. Vous ne pouvez pas avoir un personnage qui va s'appeler Ectamalod et l'autre Dupont. Ou alors, effectivement, ils ne viennent pas de la même planète. Donc, ça, c'est une première chose. En ce qui concerne la constitution même du monde, moi, je m'inspire très largement de paysages que je connais. Qui sont en général des paysages très contrastés parce que j'aime bien les sites un petit peu extrêmes, comme la haute montagne, les sites volcaniques, etc., où je suis allé me promener. Donc voilà, j'utilise ces éléments parce qu'ils me conviennent, mais je n'ai pas une réflexion, je ne mets pas tout sur un papier au départ. Bon, c'est en écrivant que ça me vient. Quand je commence un roman, je sais à peu près où je vais, mais je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Donc, c'est à mesure que j'amalgame ces éléments, encore une fois, en essayant et en procédant par itération pour rendre tout ça cohérent.
Oui, parce que c'est souvent la question qu'on se pose. On peut voir, on pourrait transposer ça dans le monde, par exemple, des séries à la télévision, où très souvent, en fait, les scénaristes ne savent pas forcément d'une saison sur l'autre vers où ils vont amener finalement l'histoire, le développement de tel ou tel personnage. Et Régis, donc, tu as combien de temps tu as mis en fait pour écrire Le sang des sept rois et comment tu t'y es pris aussi.
donc j'ai commencé en 2010 l'écriture de ce roman et après j'ai arrêté à peu près une petite année pour repasser donc un master. Voilà, j'étais peu diplômé et donc j'ai rattrapé, ce qui fait qu'il y a eu une ellipse à un moment donné où j'ai arrêté d'écrire, et ce qui fait qu'en tout ça a dû durer à peu près 4 ans je pense, 4 ans d'écriture pour l'heptalogie. Alors comment je suis pris? écrit. Alors, je m'excuse pour ceux qui étaient tout à l'heure dans l'autre table ronde, où j'ai déjà un peu raconté cette histoire-là, mais en fin de compte, c'était un peu par désœuvrement, en quelque sorte, dans le trajet en train, où je me suis mis à relire beaucoup, Tolkien entre autres, mais à relire beaucoup de fantasy pour m'échapper tout simplement, grâce à ces mondes parallèles, m'échapper un petit peu au quotidien, finalement, beaucoup de gens lisent dans les transports en commun, et ça m'a donné des envies d'écriture. Et quand j'ai commencé à un moment donné la première ligne, je ne savais pas du tout qui était mon personnage, je ne savais même pas qui était le personnage principal, je ne savais pas à quoi ressemblait cet univers-là. Je l'ai dessiné plus ou moins quelques semaines après le début de l'histoire, mais effectivement, ça correspond vraiment à ce que tu disais, c'est-à-dire que j'ai l'impression de partir d'un point central, et ensuite je mets mon personnage en voyage, et au fur et à mesure qu'il voyage, je vais découvrir par ses yeux un certain nombre de paysages, un certain nombre qui sont naturellement en lien avec des choses que j'ai déjà plus ou moins visitées, parce que c'est très difficile d'inventer des choses qu'on n'a jamais vues. Le rôle de la mémoire est quand même extrêmement important, et de la connaissance du monde. Quand on décrit une montagne, si on n'y a jamais mis les pieds, on ne sait pas le bruit que font les cailloux quand on descend d'un pierrier. Et si on ne le sait pas, on ne peut pas visualiser la scène et comprendre qu'à la fois on a un appui, mais en même temps c'est un appui qui n'est pas fiable. De la même manière, quand on va mettre les gens sur un bateau, un voilier, à un moment donné, si on ne sait pas ce que ça fait que tenir une barre quand on a un vent de travers, on ne peut pas scénariser, si vous voulez, en quelque sorte, le jeu des courants, des vents qu'il va y avoir donc dans un archipel un petit peu déchiqueté, parce que celui du Goulet. Et ça, c'est vraiment important, je pense, de le comprendre, qu'à un moment donné, on se dit, ben voilà, notre personnage, où va-t-il aller ? On va placer devant lui donc un paysage au fur et à mesure qu'il avance et qu'il se dévoile, et qu'il va falloir malgré tout rendre ça cohérent. Alors cette cohérence va venir par notre connaissance de la géographie, mais surtout par notre expérience des voyages et de la vie, et il va y avoir un dialogue vraiment entre le personnage, l'action, qui va au fur et à mesure du déplacement fabriquer la cohérence d'un monde. Alors, je sais par ailleurs que tous ne font pas comme ça. Il y a des gens qui vont concevoir tout leur monde. J'en parlais avec Laurent Genefort à Saint-Malo sur une autre table ronde. Et lui, à un moment donné, conçoit vraiment la planète. Et il va aller donc concevoir parfois les animaux qui vont y vivre, les chaînes trophiques, c'est-à-dire qui va manger qui, etc. Pour fabriquer donc un univers qui va porter sa cohérence biologique. Et ensuite, il va se servir de ces univers-là. Parfois, peut-être ne fait-il pas toujours comme ça non plus. Mais donc, il va être beaucoup plus en amont sur la création de l'univers que je ne le suis. Moi, c'est un peu du bricolage, hein, mais c'est la manière un petit peu dont j'observe le monde. C'est-à-dire, c'est au fur et à mesure que j'avance, hein, que ma culture de l'univers que nous partageons tous, eh bien, va se construire. Mes personnages font comme ça, et c'est comme ça que j'entrevois les mondes que je crée par leurs yeux. Cela dit, c'est vrai pour Le sang des sept rois, mais c'est mon premier livre. J'ai d'autres idées de livres qui vont venir par la suite, dans lesquels les univers, tout partira d'une incohérence, voilà, d'une incohérence, et qui va finalement définir à partir donc d'une incohérence physique, quelque chose qui est absolument pas possible, hein, on est plus dans la fantaisie, et bien forcément un rapport à l'espace qui sera singulièrement différent. Et je pense qu'il n'y a pas forcément une recette universelle en ce qui me concerne, parce que je veux très bien, comme celui-ci, ce qui est vraiment très intuitif, hein, puisque je suis à la fois autodidacte et j'étais parfaitement débutant, donc je ne savais pas comment on écrivait un livre, donc je suis parti un peu droit devant moi, et ça s'est construit comme ça. En revanche, j'ai d'autres idées de mon univers comme ça, qui vont se construire à partir d'incohérences, et qui vont nous obliger à nous reposer finalement notre relation à la gravité, notre relation à la verticalité, des choses comme ça. Donc pour l'instant j'ai fait comme ça, après je verrai.
C'est intéressant parce que pour rebondir sur ce que vient de dire Régis, tu parles de la vie et de l'observation du monde réel, et en même temps tu as dit que tu avais commencé par relire des textes dans le train et que ça t'a donné envie d'écrire. Donc en fait, moi ce que j'entends, c'est la manière dont les deux s'articulent, le rapport au monde réel et puis la connaissance qu'on a comme lecteur des codes également. Et on sait que la naissance de l'œuvre de Tolkien la plus connue, donc Le Hobbit publié en 37 et Le Seigneur des Anneaux en 54-55, c'est une naissance très paradoxale, puisque vous connaissez peut-être l'anecdote, mais un jour Tolkien corrigeait les copies et un étudiant laisse une copie blanche, et Tolkien écrit comme ça une première phrase: dans un trou vivait un hobbit. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est un hobbit? Et il a commencé à tirer ce fil-là et d'essayer d'imaginer ce que ça pouvait être et comment vivait ce peuple, etc. Mais on était au cours des années 30, c'est-à-dire à un moment où ça faisait à peu près 15 ans que dans son esprit mûrissaient, naissaient des légendes qui se rapportaient à un monde très ancien qui était le monde des elfes, un monde marqué par l'épopée et par des guerres. Et lorsque Le Hobbit a été publié en 1937 un petit peu par hasard et que son éditeur lui a demandé la suite, on en a des traces dans la correspondance de Tolkien qui a été publiée en français. On a à peu près 700 pages de lettres de Tolkien, assez amusantes puisqu'on voit Tolkien commencer plusieurs fois la suite du Hobbit et ne pas réussir. Se dire, bon alors, est-ce que je recommence avec Bilbo? Non, ça ne marche pas. Est-ce que je commence avec tel personnage? Et puis, parallèlement, on a gardé, Christopher Tolkien a édité, un texte manuscrit où Tolkien notait plein de questions. Et à un moment donné, on voit apparaître, faut-il faire de l'anneau un élément important du récit? Oui, oui, oui. Et donc, on a des traces de la genèse du livre qui, en même temps, partait d'un univers qui avait été esquissé à grands traits dans Le Hobbit, mais en fait très peu, puisque Le Hobbit, c'est vraiment le livre pour la jeunesse publié par Tolkien, et pratiquement, en tout cas, le seul publié de son vivant pour la jeunesse. À l'arrière-plan, un monde imaginaire esquissé dans ses grandes lignes pendant une vingtaine d'années, mais a priori sans rapport avec l'univers du Hobbit. Et puis, encore derrière, en fait, non seulement l'observation du monde réel, et on en parlait tout à l'heure lors de la première table ronde, c'est-à-dire on prélève des éléments dans le monde premier, on les recombine et ça donne un monde secondaire, ce que Tolkien appelle le monde secondaire. Il a théorisé ce genre de choses. Et d'ailleurs, on l'oublie souvent, mais le fameux livre de Bettelheim sur la psychanalyse des contes de fées, c'est vraiment un livre qui s'inspire énormément, pour ne pas dire plus, de l'essai que Tolkien a consacré aux contes de fées en 1939. Mais je disais, il s'inspire du monde réel, mais surtout, il s'inspire de la littérature. C'est-à-dire que l'œuvre de Tolkien, c'est vraiment une œuvre qui est faite pour ouvrir une fenêtre sur le passé littéraire européen. C'est quelqu'un qui a trouvé dans les récits merveilleux, romans ou fantaisies, un moyen de faire vivre et de rendre un hommage à la littérature qu'il aimait, en particulier la littérature vieille anglaise, Beowulf, donc qui, vous le savez, est un petit peu l'équivalent de la chanson de Roland pour les Anglais, mais aussi les sagas nordiques, mais aussi les récits arthuriens. Et dans son esprit, le rapport au texte déjà existant et le rapport au monde réel sont à traiter de la même manière pour servir de point de départ à l'écriture d'un roman qui, en l'occurrence, Le Seigneur des Anneaux, a inventé son propre genre au cours de l'écriture, pour rejoindre ce que disait Régis.
Merci, en fait, Vincent. Christian ?
En fait, quand on utilise des éléments de la nature réelle, je dirais, on n'est jamais sans intention, c'est-à-dire d'abord, on n'est jamais ingénu. Ce que l'on voit, ce n'est pas la nature telle qu'elle est, mais c'est la nature telle que notre culture nous l'apporte. Et en fait, les éléments de paysage qu'on utilise sont très souvent des éléments symboliques. Parce que sont attachés à la forêt, à la montagne, à l'océan, tout un arrière-plan de symboles avec lesquels nous pouvons jouer. Et donc, prenez par exemple le climat entre le... Si vous situez l'action dans un désert ou si vous situez l'action dans un désert arctique, il est évident que ça traîne derrière soi tout un pan par rapport, si on prend l'Arctique, c'est le froid, donc c'est la mort. Donc voilà. Donc on joue constamment avec ces symboles, soit en les utilisant, soit au contraire en les prenant à contre-pied.
Bien, donc tout ceci est très intéressant parce que cela nous fait rentrer véritablement dans les modules de création et les modèles de création évidemment de ces livres, de ces livres univers. Alors maintenant on va parler un petit peu des lecteurs. Parce que pourquoi finalement les mondes imaginaires fascinent-ils autant ces lecteurs? Alors quand je parle de monde imaginaire, je pense à ces univers qui sont créés, à ces cycles. On a un véritable succès de ces séries aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si Tolkien, par exemple, ça c'est une chose que j'ignore, donc je pose très naïvement la question, si Tolkien a eu autant de succès lors de la parution du livre. Et, voilà, et pourquoi vous discutez souvent avec vos lecteurs, donc pourquoi les lecteurs sont-ils autant fascinés par ces mondes finalement, qu'ils soient fantasy ou science-fiction?
On peut commencer par Tolkien. En l'occurrence, oui, Le Hobbit a eu un succès immédiat. Mais en littérature de jeunesse, alors Tolkien a été très embêté, parce qu'en fait il écrivait pour ses proches. Alors ça a été le Hobbit pour les enfants parce que son petit garçon Christopher, qui est particulièrement attentif, retenait tous les prénoms des nains et la couleur de leurs vêtements, etc. Donc il a continué, mais Christopher a grandi. Et Le Seigneur des Anneaux a été écrit pour Christopher et pour son ami C.S. Lewis, hein, qui lisait des extraits et à qui il est très reconnaissant de l'avoir aidé à terminer le texte. Mais Christopher Tolkien, lorsque J.R.R. Tolkien finissait Le Seigneur des Anneaux, avait entre 19 et 20 ans. Donc c'était pour un jeune adulte. Donc il y a eu une interaction avec des lecteurs premiers. Et après, ce qui est frappant quand on lit la correspondance de Tolkien, donc ses lettres, c'est la générosité avec laquelle il répond aux lecteurs. Donc quelqu'un lui demande d'en savoir un peu plus sur les cadeaux chez les Hobbits. Parce que vous savez, quand c'est votre anniversaire, c'est vous qui offrez les cadeaux. Et en fait, Tolkien répond par une lettre de 12 pages. C'est extraordinaire, c'est-à-dire, ah oui, tiens, je m'étais posé la question, mais j'avais jamais écrit, donc j'arrête de faire ce que j'étais en train de faire, même si tous mes amis universitaires me disent de vite terminer mon article, parce qu'en fait, Tolkien, il faut le savoir, c'était un génie absolu en philologie. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un de ses anciens collègues quand j'étais à Cambridge, et qui m'a dit, quel malheur que Tolkien ait passé toute sa vie à écrire des bêtises, quand on pense le puits de science que c'était, à quel point il aurait pu changer l'histoire de la philologie. En fait, il a changé l'histoire de la philologie. Mais Tolkien avait une sorte d'aura qui était équivalente à celle d'Umberto Eco, par exemple. C'est vraiment ça, hein, pour s'imaginer. Bon. Mais on n'empêche qu'il laissait un petit peu de côté ses articles, ses éditions savantes, etc., pour répondre aux lecteurs. Et cette forme de générosité, il en a joué à un moment capital que certains d'entre vous connaissent, qui est le moment où Le Seigneur des Anneaux est sorti aux États-Unis dans les années 60 dans une édition de poche pirate. Parce qu'il y avait une sorte de faille dans le copyright. Et Tolkien a écrit à ses lecteurs américains en leur demandant de se mobiliser parce que, non pas parce qu'il voulait gagner de l'argent, mais parce qu'il était malheureux à l'idée que l'édition qui paraissait soit aussi fautive, avec sur les noms des personnages, etc. Donc il ne voulait absolument pas que cette édition-là s'impose sur le marché. Et donc il a créé une interaction permanente avec ses lecteurs. Une édition officielle a été publiée avec les bons noms de personnages, une couverture catastrophique, peu importe. Mais l'interaction avec les lecteurs a été première dans son œuvre. Et on en a encore des traces maintenant, puisque vous le savez, il y a beaucoup de fanfiction qui concerne l'univers de Tolkien et pas seulement Le Seigneur des Anneaux, mais c'est un univers qui, par les interstices et les ellipses temporelles, sur les milliers d'années que compte l'histoire de ce monde, ces ellipses-là nous invitent, nous lecteurs, à imaginer ce qu'on pourrait rédiger à partir de tel personnage ou dans tel épisode qui n'est pas raconté par l'œuvre de Tolkien.
Christian, pour... Fascination du lecteur.
Je pense d'abord que ça n'est pas nouveau, que ça existe quand même depuis un certain temps. Je veux dire, depuis l'Antiquité, vous avez des récits de voyage, plus ou moins imaginaires. Simplement, on arrive aujourd'hui où il est assez difficile de faire rêver avec une exploration en Afrique, par exemple, parce que... On fait plutôt du texte politique ou du thriller en utilisant ce décor-là. Mais bon, sur Terre, on a à peu près tout exploré. Alors, donc, effectivement, il y a encore quelques récits de voyage ou quelques récits de montagne qui intéressent les passionnés. Mais pour rêver, on ne trouve plus grand-chose sur la Terre. Donc, autant aller ailleurs. Voilà.
Oui, ça c'est... ailleurs pour la science-fiction et puis pour le temps aussi et puis la fantaisie.
Tout à fait. Non, mais quand je dis ailleurs, oui. c'est l'imaginaire d'une manière générale. Hein. C'est voilà. Mm-hmm. Je pense que c'est le besoin de rêver, tout simplement, qui conduit les gens à apprécier ce genre de décalage avec la réalité.
Du coup, je pensais aussi là au Moyen Âge. Il y a eu beaucoup de. Je crois que c'était à partir du XIVe siècle. Il y a eu beaucoup de continuations. Ce qu'on appelait les continuations dans la littérature médiévale, c'était des suites en quelque sorte. Donc il y a eu les continuations, par exemple, de Lancelot, qui ont eu un immense succès. Et c'était, bon, c'est pas forcément très très intéressant à lire pour nous, parce que c'est pas le texte, par exemple, original de Chrétien III, mais c'est vrai que les cycles hein, et les univers qui sont créés, ça existe depuis, évidemment, fort longtemps, hein, depuis que la littérature existe, je pense. Et donc, Régis, par rapport à justement cette fascination des lecteurs.
Moi, je vais plus répondre en lecteur qu'en auteur. C'est vrai que quand j'étais dans le train, je n'avais pas du tout envie de lire un livre qui me raconte la vie d'un prof d'art plastique qui prend son train sur le quai numéro 2 de Longo pour aller à Paris, à la fac, à Villetaneuse. Voilà, c'était pas du tout. J'ai pas envie qu'on me raconte ma vie et je n'ai pas non plus surtout envie qu'on me raconte des vies que je peux vivre en réalité. Mmh. C'est-à-dire que celle-ci, sans aller dire qu'elle ne m'intéresse pas, si j'ai envie de voir comment ça se passe en Indonésie, je peux y aller. Donc ce n'est pas ça que je cherchais dans la littérature. Je cherche plutôt à vivre des aventures, à parcourir des espaces que je ne verrai jamais. Alors, soit parce qu'ils ne correspondent pas à des lois physiques qui sont les nôtres, et donc des mondes impossibles, ou alors soit parce que c'est trop loin, soit parce que c'est dans trop longtemps. Et finalement, c'est à la fois, ça provoque une certaine forme d'exotisme, et en même temps, ça m'enrichissait, et ça m'enrichit toujours à la lecture, parce que ça me permet de vivre d'autres vies que celles que je peux vivre. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Et ça permet, ça occasionne aussi parfois une espèce de deuil à chaque fois qu'on sort d'un cycle un peu long dans ces domaines-là, parce qu'on sait qu'on ne pourra plus y revenir, ou alors sauf à relire naturellement l'œuvre. Ça, sur le plan du lecteur, effectivement, je cherchais une rupture avec le réel, quoique si ça tombe, ça existe, mais beaucoup plus loin, hors d'atteinte, hein, au niveau des distances, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est mon hypothétique, hein, qu'il soit rationnel ou qu'il ne soit pas rationnel, parce que c'est bien là la vraie différence entre les littératures que moi je peux faire, le rationnel et le non rationnel, me permettre, si c'est trop loin, si c'est dans trop longtemps et que naturellement je serai mort si ça se produit un jour, ce sont des hypothèses qui me consolent peut-être de mes limitations d'homme, hein, au niveau de ma longévité, au niveau de mon déplacement possible. Sur le plan de l'écrivain maintenant et pas sur le plan donc du lecteur, ça m'intéresse beaucoup plus ces univers-là parce que je peux les recomposer notamment, on parle d'univers mais ce sont aussi des univers politiques. Si je m'attache par exemple à raconter une histoire dans un univers qui est connu, je vais subir finalement par rapport donc au système politique, au système de répartition des pouvoirs, au système économique, à construire donc à respecter d'une certaine manière donc les règles du jeu qui sont établies. Si je fais un pas de côté et on se dit ça ressemble mais c'est pas là, je peux recomposer ces modes-là avec des règles qui me sont propres et donc d'une certaine manière réinterroger notre vie à nous. C'est quand même de la littérature contemporaine et qui interroge en réalité beaucoup plus l'économie, les tensions de nos sociétés actuelles qu'elles ne veulent bien le dire en réalité, parce que même si ça se passe, le centre de 7-3 se passe dans un monde qui n'existe pas ou peut-être pas, mais il n'empêche que les problématiques sous-jacentes, ça reste un roman d'aventure, mais les problématiques sous-jacentes politiques sont, quant à elles, extrêmement ancrées dans la vie de tous les jours. Si je peux juste me permettre un exemple, j'ai commencé à écrire donc en 2010 au moment où il y avait un double fait politique, bien sur notre terre, hein, j'entends bien, voilà. Il y avait le vote des étrangers pour les élections municipales, qui revenait une fois de plus sur le tapis, comme étant une minorité, mais qui pouvait s'exprimer puisqu'elle payait des impôts, elle pouvait contribuer à la vie collective, et en même temps la parité homme-femme en politique. Et j'étais extrêmement surpris que la simultanéité de ces deux questionnements ne soulève pas de questions. Est-ce que les femmes étaient elles aussi considérées comme une minorité en France ? Et finalement, je suis revenu un petit peu en arrière et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai lu moi finalement ? J'ai lu des histoires très masculines dans lesquelles, quand on avait des héros qui étaient des héros féminines, souvent c'est des espèces de musclores en 95D, des femmes qui sont complètement improbables, hein, et finalement, dans les on va nous rabattre les oreilles avec une féminité impossible et des structures sociopolitiques qui sont essentiellement masculines. Alors je me suis attaché à fabriquer un monde dans lequel il n'y avait aucune femme. Et je me suis dit, ben, je verrai bien la lecture s'ils vont le voir, si les lecteurs vont le voir. Mais personne ne le voit. J'ai un vicomte, il n'y a pas de vicomtesse. Il y a un roi, il n'y a pas de reine. Il y a un moment des nonnes bleues, je les tue avant qu'on les entende. Donc, à un moment donné, dans ce roman-là, au tout début, après, ça s'améliore quand même. Au début de cette histoire-là, c'est juste un petit exemple comme ça. Et au fur et à mesure, naturellement, les femmes vont prendre une grande place, hein, dans ce livre-là, mais elles vont monter, conquérir des places par rapport à leurs valeurs propres. Et pas par rapport à un constat, c'est normal, hein, qu'un homme soit vicomte, parce que les vicomtes sont des hommes. Donc il y avait quelque chose de normal, il y avait des choses qui se construisaient socialement. C'est un petit exemple, ça vaut ce que ça vaut, mais ça montre bien que c'est pas parce que on va décrire des planètes différentes, qu'on choisisse un mode d'emploi, un gameplay rationnel ou non rationnel, c'est pas pour autant que les questions que nous posons à l'intérieur des livres ne sont pas des questions extrêmement contemporaines, naturellement, qu'on va porter au niveau qu'on peut.
Donc, prochaine, je te donne la parole après, Vincent. Donc, prochaine heptalogie, le sang des sept reines. Si je comprends bien, c'est ça. Voilà. Vincent.
Oui, non, tout simplement pour continuer cette discussion, c'est la réflexion qui amène Tolkien à opter pour le merveilleux. C'est l'idée que la fantaisie peut servir de détour pour mieux percevoir le réel. Alors c'est assez frappant de voir que dans les années 20-30, Tolkien fait le même constat que d'autres auteurs de littérature blanche, comme Proust par exemple, le constat qu'on ne perçoit pas vraiment le monde réel, que l'habitude nous coupe des choses qui nous entourent, que les personnes qu'on croise tous les jours, on finit par les résumer à quelques traits de personnalité et on ne les perçoit plus vraiment. Et ça tracasse des écrivains de cette génération-là, bah après et avant évidemment, mais ça a été vraiment théorisé à l'époque du côté de certains théoriciens de la littérature russe par exemple, ou alors, je le disais, chez Proust. Et Tolkien se demande comment casser l'habitude du lecteur et comment le forcer à regarder le monde tel qu'il est. Et la solution qu'il choisit, après on peut la discuter, c'est le détour par un univers qui va à la fois laisser une place importante au merveilleux, mais en même temps ressembler beaucoup à notre univers. Donc nous forcer à essayer de faire l'aller-retour entre le monde du livre et le monde qui nous entoure. Donc on parlait tout à l'heure de la manière dont il va redisposer les éléments du monde réel à l'intérieur de la fiction, mais dans l'idée vraiment de nous inviter à interroger le monde autrement, avec une dimension symbolique. Par exemple, comme ça a été dit à l'instant, les hobbits, pourquoi est-ce que les hobbits sont petits? Eh bien, on le sait grâce aux lettres de Tolkien. Les hobbits sont petits parce que ça représente la petitesse de leur esprit, esprit de clocher. On dit parfois que le monde des hobbits, c'est un âge d'or perdu, que Tolkien est réactionnaire, qu'il rêve à ce qui s'est passé avant l'industrialisation. Il y a un éloge de la nature chez Tolkien, mais en fait, il se moque des hobbits dans toute l'histoire et dans toutes les histoires, de leur étroitesse d'esprit, et de la manière dont ils ne se rendent pas compte que le monde extérieur est en prise, enfin que leur monde à eux est en prise directe avec le monde extérieur. De la même manière, ils forcent le lecteur à s'interroger à ce qu'il ne connaît pas, sur ce qu'il ne connaît pas du monde. Et le livre est là, Le Seigneur des Anneaux, à travers une histoire qui peut sembler assez banale dans sa structure. Le Seigneur des Anneaux est là pour le forcer à changer un petit peu son regard sur le monde qui l'entoure, outre le fait, et là je rejoins ce qui a été dit, que les récits nous donnant accès aux profondeurs du temps, dit Tolkien, sont des récits qui peuvent nous apporter une forme de consolation par rapport à l'angoisse de la mort. Je cite vraiment son essai sur le conte de fées, où c'est dit aussi clairement que ça, une forme d'évasion peut-être, mais surtout une manière d'essayer de lutter contre l'angoisse de la mort à travers l'invention de textes qui miment de grands textes médiévaux, comme par exemple Beowulf.
Juste un mot, Vincent, sur la réception en fait du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire comment, à travers les époques, finalement, est-ce qu'il y a plus de lecteurs finalement à l'époque contemporaine
que quand
le livre est sorti. Ça, c'est intéressant dans l'histoire.
Mais je disais tout à l'heure, succès immédiat du Hobbit en 1937, il a eu un prix du meilleur livre pour la jeunesse aux États-Unis en 1938. Et puis Tolkien disparaît des écrans radars du monde de l'édition jusqu'en 1954-55. Le Seigneur des Anneaux a été très compliqué à faire paraître, puisque le livre faisait 1000 pages et que Tolkien espérait faire paraître en même temps le Silmarillion qui campe le décor. Et dans les années 50, le Seigneur des Anneaux a eu un succès d'estime immédiat. Il ne s'en est pas vendu des millions, mais quand même un nombre vraiment raisonnable. Et comme vous le savez peut-être, il y a eu une émission assez claire à ce sujet dans la grande librairie il y a un an à peu près, et elle est en replay ou même elle a été mise sur YouTube. Vous les avez vues, les images sur les campus américains avec les étudiants défilant au moment de la contestation de la contre-culture et puis des protestations contre la guerre du Vietnam. Gandalf président, Frodo est vivant, etc. Et la contre-culture américaine s'est emparée du Seigneur des Anneaux comme étant un livre qui dénonçait, et donc on en a parlé, l'oppression politique ou la manière dont un être veut asservir les autres êtres libres et en particulier leur volonté. Et Tolkien est absolument d'accord avec eux. Pour lui, l'anneau, c'est un symbole du pouvoir absolu et de la manière dont le pouvoir asservit les âmes. C'est absolument pas la bombe atomique, c'est une lecture vraiment politique. Et donc les étudiants américains ont bien compris ça. Il y a d'ailleurs toute une tradition américaine qui perdure de ce point de vue-là, puisque si vous entendez parler régulièrement des défenseurs de Sequoia en Californie qui se réfugient en haut des Sequoia pour pas qu'on les coupe, qu'est-ce qu'ils emportent pendant 3 semaines en haut? De la nourriture et le Seigneur des Anneaux. Donc ça a perduré, puis il y a eu plein de relais culturels avant même les fanfictions. Il y a eu la musique, puisque bon, c'est l'exemple que j'aime bien citer, Led Zeppelin. Dans Led Zeppelin 2, il y a des allusions absolument direct au Seigneur des Anneaux. On sait que les Beatles devaient jouer dans un projet d'adaptation cinématographique, donc il y a eu beaucoup de relais. John Boorman au cinéma n'a pas pu mener à bien son adaptation, ça a donné Excalibur, mais il y a eu des projets qui ont été vraiment des serpents de mer jusqu'à Peter Jackson. Donc au fil des générations, et ça c'est très frappant en France, moi j'ai fait une cinquantaine de présentations en médiathèque, en bibliothèque, à chaque fois le public est transgénérationnel. Il y a des gens qui ont lu Tolkien dans les années 70, et en France, Le Seigneur des Anneaux est un succès énorme, critique et auprès des lecteurs. Le monde de l'édition a pris fait et cause pour Le Seigneur des Anneaux, puis c'est un petit peu retombé après. Mais donc des lecteurs d'il y a 40 ans ou 45 ans qui ont fait à leur tour connaître Tolkien à leurs enfants, à leurs petits-enfants, ce qui explique une vraie diversité. Et puis maintenant, il y a le rejet... Bon lapsus. Donc il y a le relais des films de Jackson, hein, et le relais des jeux vidéo, évidemment extrêmement important maintenant, non seulement des jeux, alors les jeux de rôle n'en parlons pas, moi j'ai été gamer comme Jean-Philippe Jaworski pendant des années, mais des jeux de rôle, mais aussi des jeux vidéo dans lesquels on incarne des personnages qui évoluent dans un univers qui ressemble beaucoup à celui hérité du Seigneur des Anneaux, ou l'image qu'on en a maintenant, parce que le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment pas manichéen bien mal, mais c'est parfois une image qu'on en a quelquefois. Pardon, j'étais un petit peu long, mais tu m'as demandé une réception sur les 60 dernières années, alors ça, même 80 avec
Bien sûr, bien sûr. Non, mais je me doutais bien que ça allait être un petit peu plus long, grand mais c'est trait. Pas grave. Voilà, donc on va passer à la dernière question. C'est une question, en fait, qui est à la fois une question peut-être pour les lecteurs, peut-être aussi pour les lecteurs que vous êtes aussi, et pour les écrivains. Est-ce qu'il est facile, finalement, de rentrer dans un monde imaginaire? Et alors vous, en tant qu'écrivain, Christian, par exemple, quand tu imagines ton univers, est-ce que, par exemple, tu donnes tout d'emblée au lecteur, ou est-ce que tu vas tracer, je dirais, un certain nombre de pistes? On sait que Dune, par exemple, c'était un livre elliptique, c'est-à-dire qu'il fallait que le lecteur découvre quand même beaucoup de choses par lui-même.
Oui, effectivement, bon, donner d'emblée la description du monde serait maladroit, parce que d'une part, ça l'amènerait à l'état de décor, tout simplement. Donc, il faut que le lecteur découvre ce monde d'une façon, je dirais, naturelle, c'est-à-dire que bon, le personnage est en situation, il intervient dans le décor, ou le décor intervient sur son action. Donc il faut effectivement lancer des traces, et puis bon, il faut dire les choses comme elles sont. On ne décrit pas un monde dans son détail, en fait on trace à grands traits, on simplifie énormément, et c'est d'ailleurs parce qu'on simplifie le monde et la société qui y vit, c'est-à-dire qu'on en montre que certains traits, que l'on peut l'utiliser comme instrument pour avoir une critique sociale sur notre propre monde. C'est-à-dire qu'on choisit de mettre l'accent sur tel ou tel aspect en débarrassant, en filtrant. On ne le présente pas dans toute la complexité du monde réel, parce que sinon ce serait beaucoup trop compliqué à faire, et en même temps, on noierait complètement la démonstration, si démonstration il y a. Donc effectivement, un monde, ça se dévoile petit à petit, a fortiori quand on fait un cycle comme celui-ci. Quand je suis parti, je n'avais pas du tout l'intention de faire un cycle, et c'est avancé au fur et à mesure. Donc, encore une fois, il faut faire en sorte que toute nouveauté reste cohérente avec le reste, mais il y a aussi des nouveautés que l'on découvre au fur et à mesure nous-mêmes.
Oui, donc il y a une double perspective, en fait, hein. La création amène finalement la création.
Bien sûr.
Et l'entraîne de cette façon-là. Régis ?
Moi, je pense que quelqu'un qui va faire la démarche d'aller prendre un livre qui relève de l'imaginaire, il a déjà envie d'y croire au monde, au livre qu'il a pris à la bibliothèque ou qu'il a acheté. Et donc, c'est un public qui est bon public. Bon, voilà. Et par contre, je pense que de ce fait, c'est d'autant plus facile de rentrer à l'intérieur donc des univers qui sont proposés. On va accepter, finalement, au fur et à mesure qu'on va donc décrire le monde qu'on va traverser, eh bien, on va en accepter les règles du jeu. Par contre, on en est aussi vite expulsé s'il devient incohérent. C'est-à-dire que c'est très facile, on a une adhésion a priori, je trouve, de la part des lecteurs, et par contre, si derrière on arrive à fabriquer quelque chose qui ne tient pas debout, on arrive presque à une espèce de rupture de contrat. C'est-à-dire que, et ça c'est très délicat, comme on le dit précédemment, d'en dire suffisamment pour qu'on puisse s'y sentir vivre, de ne pas trop en dire pour que ce ne soit pas finalement didactique, qu'on en ait pas, et par contre, de rester cohérent pour qu'on continue d'y croire tout le long du roman. Et ça c'est vraiment un effort qu'il faut faire de manière extrêmement permanente. Dans le sens des C3, j'ai procédé un petit peu différemment, je me suis amusé. On a découvert le système politique parce que ce qu'en disaient les gens, mais forcément en fonction de là où ils se situent au niveau des factions, ils ne vont pas donner les mêmes versions d'événements pourtant qu'on reconnaît dans les différentes versions qui sont données. Et c'est un moyen pour que ce soit finalement au lecteur de se faire sa propre idée. Et naturellement, c'est le jeu un peu de la chaise retirée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais donner quelques éléments. Le lecteur a l'impression qu'il a compris dans quel monde politique il se situe, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que derrière, il va y avoir un contre-champ dans lequel quelqu'un d'autre va raconter les mêmes événements. À un moment donné, donc ça va forcément à un moment donné donner la contradiction. Le lecteur va se dire, ça y est, maintenant j'ai compris. Mais l'histoire va être racontée une troisième fois par quelqu'un d'autre, et l'auditeur de ces trois histoires-là est le même. Et il ne va pas, il va laisser parler les gens, et ce qui fait qu'on se retrouve un petit peu dans cette situation, et la structuration politique va devoir se construire chez le lecteur en fonction des quelques indices qu'on va lui donner, qui peuvent parfaitement être contradictoires s'ils viennent donc de bouches et de points de vue différents. Et je pense que la question de l'ellipse effectivement est très intéressante. On peut aussi fabriquer des ellipses en se disant pourquoi est-ce qu'ils ont finalement des avis différents sur ce monde-là. Est-ce que c'est pas là que réside le sens finalement? Est-ce que l'histoire n'est pas dans cette différence de point de vue? Et ça crée des mondes qui sont flous, qui sont parfois imperceptibles et qui vont permettre l'immersion, parce que ce sont des mondes dans lesquels il faut qu'on se fasse parfois son propre avis. Ce ne sont pas des mondes donnés, voilà.
Comme le dit Tolkien, reprenant une formule célèbre, comment provoquer la suspension de l'incrédulité du lecteur? La question, là, je peux y répondre en expliquant pourquoi les éditions Bourgois ont retraduit Le Seigneur des Anneaux. Moi, j'avoue que, aimant Tolkien, j'étais malheureux d'entendre des personnes me dire qu'elles avaient bloqué au bout de 100 pages. Mon livre en fait 1000. Les fameuses 100 premières pages du Seigneur des Anneaux avec les histoires de Hobbit et tout ça, on s'en sort pas, il se passe rien, etc. Et en fait, en discutant plus précisément, il apparaissait que ça avait beaucoup à voir en français avec le style et l'écriture. D'où l'idée de proposer une nouvelle traduction qui a commencé à reparaître l'année dernière, en 2014, donc en trois parties, qui colle vraiment au style anglais de Tolkien dans toute sa vivacité, sa diversité, parce que le premier traducteur français a essayé de rendre Tolkien digne d'intérêt au lecteur français, mais c'était un spécialiste de traduction de Dickens. Donc en fait, il faisait parler les hobbits en utilisant le vouvoiement, l'imparfait du subjonctif, et puis un certain rythme qui posait le récit suivant un ton peut-être digne et du coup un petit peu lent. Alors on a essayé cette fois, sans aller trop loin, de rendre compte, je le disais, de la diversité des langages employés par les différents personnages, et visiblement, cet effet de sas qui était rencontré précédemment est beaucoup moins fort, même si, et là c'est la deuxième chose que je veux signaler, même si on entre dans l'univers du Seigneur des Anneaux à travers le relais que sont les hobbits, qui sont vraiment nos représentants dans le récit, puisque ce sont des personnages qui ne croient absolument pas à l'existence du merveilleux. Ils font un mètre de haut, mais pour eux, toutes les histoires à l'extérieur, qui concernent l'extérieur du monde, sont des légendes auxquelles il ne faut pas accorder de crédit. Et du coup, ils sont extrêmement précieux pour nous, puisque c'est par leur regard qu'on va découvrir l'univers dans lequel le récit va entraîner le lecteur, et leur incrédulité va être la nôtre, leur compréhension progressive est la nôtre, et c'est une manière très subtile qu'a Tolkien de nous faire croire ou nous faire admettre progressivement des choses de plus en plus extraordinaires et qui nous emmènent vers l'épopée. Alors que dans d'autres textes, peut-être pas destinés à être publiés, je pense aux Enfants de Hurin, on est parfois plongé directement dans un univers marqué par l'épopée et par la multiplicité de noms propres, elfiques en l'occurrence, dans les Enfants de Hurin. Vous vous rappelez peut-être l'énumération des noms propres lors de la bataille des larmes innombrables. Moi, des amis qui n'avaient jamais lu Tolkien et qui ont commencé par les Enfants de Hurin m'ont dit « c'est encore pire que Tolstoï ». C'est-à-dire qu'on est saturé de noms propres, on ne sait pas où on ne sait pas qui est qui, on est obligé de faire de listes de personnages et on se perd. Donc de ce point de vue-là, il a opéré des choix vraiment radicaux. Le Hobbit, c'est un conte pour enfants. L'enfant entend bien qu'il s'agit d'un conte et il a ses repères. Le Seigneur des Anneaux propose une plongée progressive dans un univers apparemment réaliste, en tout cas vraisemblable et très cohérent, comme Régis vient de le dire. Et certains textes, comme le Silmarillion, ce qui a donné le Silmarillion, ou bien les Enfants de Hurin, sont des textes dans lesquels l'altérité et l'étrangeté sont poussées au maximum. Donc on a des stratégies narratives vraiment différentes suivant les œuvres de Tolkien envisagées.
Merci Vincent. Donc on se dirige vers la fin là, de notre table ronde qui a passé très très vite. Il reste quelques minutes donc, pour des questions dans le public. Donc je vais vous passer le micro.
Ou bien on peut les répéter.
Bonjour. Alors moi, ma question est dirigée plutôt vers l'avenir par rapport au monde univers et par rapport au développement du monde numérique et des nouvelles technologies. Je voulais savoir comment, dans votre esprit, vous voyez le développement de vos futurs univers et de vos futures écritures, ou comment réagit Tolkien s'il avait été dans ce monde-là. Est-ce que ça va impacter votre façon d'écriture, d'imaginer qu'il va y avoir aujourd'hui des outils, non pas que les websites qui permettent d'être indépendant dans son écriture pour afficher son livre, mais aussi des tableaux qui permettront de montrer les images de votre univers et tout ça. Donc du coup, est-ce que vous allez changer votre façon d'écrire par rapport à ces nouvelles technologies ?
Je pense qu'elle change déjà. Elle change déjà par le fait qu'on se documente beaucoup plus facilement qu'avant. Elle change par le fait que nous avons la capacité donc d'interagir avec le lectorat de manière extrêmement rapide. Si vous allez sur le Facebook du Centre des 7-3 et que vous mettez donc communiquer ou je sais pas quoi, voilà, ça arrive sur mon smartphone 5 secondes après. Et donc cette immédiateté, cette illusion du temps et de l'espace fait que de toute façon, effectivement, ça va changer. On peut aussi d'une manière assez simple, mettre des compléments d'information. C'est-à-dire que ça renvoie sur des contenus enrichis, en fin de compte. Quand on parle du livre enrichi, c'est un petit peu vers quoi on peut tendre. Mais là encore, on n'a pas le temps de tout. Donc il faudra voir quelle sera la contribution de zéro de la part donc, des lecteurs qui eux-mêmes peuvent contribuer, quelle marque nous pourrions y laisser aussi. Mais effectivement, ça change de toute façon la relation à autrui dans tous les actes de la vie et dans le travail d'écriture également.
Oui, moi c'était plutôt une remarque par rapport à la cohérence de l'univers et est-ce qu'il faut qu'il soit complet. Je pense que bon, de toute façon c'est impossible de faire un univers complet. Notre propre univers dans lequel on vit tous, on ne le connaît pas complètement, on découvre des choses nouvelles tous les jours. Et puis l'intérêt, comme le disait Régis Godin, c'est de le découvrir par le voyage du héros ou des héros qui eux-mêmes... Même si l'écrivain connaît un peu plus son monde, le héros lui-même, il n'a qu'une connaissance très très relative et restreinte. Pierre Bordage disait que lui, il n'avait pas de connaissances scientifiques, mais il aimait écrire des space opéras. Il disait, mais je ne sais pas comment on fait pour voyager plus vite que la lumière, mais c'est aux ingénieurs de dire comment on fait. Moi, je dis que ça existe comme les smartphones, et puis c'est tout. Débrouillez-vous avec.
C'est à moi. Moi, c'est plutôt une observation qu'une question. Elle s'adresse un peu à vous, parce que vous avez cité les deux exemples Dune et Le Seigneur des Anneaux en entrée, et ils sont parus dans ma jeunesse. Je viens de fêter mes 70 ans. Alors, à la limite, j'aurais envie de vous dire qu'y a-t-il de nouveau dans le monde de la fantaisie ? J'ai pas vu.
Vous avez certainement mal lu.
Voilà. Alors là, je vais laisser répondre parce que vous adressez à moi, mais je vais laisser répondre nos intervenants.
Non, c'est pas parce qu'il y a des archétypes hein, que tous ceux qui ont travaillé derrière sont des ânes. Voilà, il faut. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, tout s'écrit et tout se fait en appui sur ce qui s'est fait avant. Et c'est vrai, naturellement, pour le Seigneur des Anneaux, qui lui-même ne part pas de rien du tout. Hein, les contes un peu originels sont certainement aussi fixés par une tradition orale, de choses qui leur sont antérieures. C'est une continuité, tout ça. Par contre, Tolkien, si aujourd'hui il était encore vivant, parmi nous, il n'écrirait plus du tout la même histoire parce que le monde a changé. Tolkien, c'est quelqu'un qui a écrit dans l'immédiate, tu me corriges si je dis des bêtises, l'immédiate après-guerre. C'est une période qui était coincée entre la Seconde Guerre mondiale, qui était une vision très bipolaire d'un monde, et d'un autre côté, la guerre froide, qui ne l'était pas moins. Aujourd'hui, on a un monde... Oui.
Sur l'importance de la guerre, sur la pensée de Tolkien.
Oui, mais bon... ce n'était pas l'objet de votre question. Et donc, par rapport à ceux qui ont suivi, naturellement, le contexte social n'est pas du tout le même, le contexte politique n'est pas le même. Et comme nous l'avons dit pendant la table ronde, nous ne faisons jamais que transposer notre vie à nous d'aujourd'hui dans des univers qui ne sont pas des univers connus. Et je pense que on retrouve ça dans d'autres formes d'art, les arts plastiques me sont plus familiers. Si Picasso était vivant aujourd'hui, il ferait du net art. Il n'inventerait pas le cubisme. Parce qu'on n'en est plus à se réfléchir sur la relativité du temps et de l'espace. Et donc, effectivement, Picasso est quelqu'un qui s'est inspiré naturellement d'une culture classique de la peinture, qu'il a réinventé par rapport à l'état de son monde. Tolkien a fait la même chose, ce sont des archétypes. Maintenant, ces gens qui sont des génies, s'ils étaient aujourd'hui en train de travailler avec nous, ils ne feraient plus du tout les mêmes choses qu'ils ont fait dans le contexte qui était celui de leur création.
Oui, sans compter, je crois aussi qu'aujourd'hui, vous avez le rôle de l'image qui est primordial. Et je pense que les nouveaux univers... Alors, moi, je suis plutôt spécialiste de science-fiction. Je crois qu'à travers des cycles, si vous voulez, de cinéma, hein, bon, Star Wars, par exemple, mais qui court quand même sur quasiment maintenant 35 ans, vous voyez. Donc, on a un renouvellement et des thèmes, mais qui suivent effectivement, qui suivent l'époque. Alors, on a des archétypes, on a des modèles, hein, que furent Dune et puis, évidemment, Le Seigneur des Anneaux. Mais aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup, beaucoup d'autres créations, mais différentes, je pense. Voilà. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions... Ah si, monsieur, alors une toute dernière, parce que, voilà, après, nous devons laisser la place.
Oui, juste une remarque en forme de question, ou l'inverse. Vincent, vous disiez tout à l'heure que, finalement, le nom et les langues avaient été très importants pour Tolkien. Mais n'est-ce pas aussi en relation avec le fait qu'il était particulièrement croyant et que pour lui... au commencement était le verbe.
C'est vrai.
Et est-ce que les auteurs ne pensent pas que finalement, lorsqu'ils créent eux-mêmes un monde, lorsqu'ils nomment leurs personnages, ils se retrouvent un peu à la place d'une divinité?
Alors, je pensais exactement à la formule que vous évoquez lorsque je parlais de la puissance du verbe dans la création de l'univers. Dans le cas de Tolkien, il insiste énormément sur l'humilité. C'est plutôt une manière de rendre hommage à la création que de faire ce qu'il appelle de la sub-création, c'est-à-dire de la création à partir d'eux. Voilà, mais ça répond, ça rejoint ce que vous dites.
Voilà, et très bonne remarque qui va clore notre table ronde. Voilà, le monde imaginaire et les démiurges. Merci beaucoup. Merci à vous.